Le jour où l'Amérique a perdu son aura. Lors de la conférence des vétérans sur le djihad à l'occasion du deuxième anniversaire de la mort en martyr du général Soleimani, le commandant de l'armée de l'air du Ségéri, le général Amir Ali Hojizadeh, a souligné le déclin de l'hégémonie des États-Unis après la vengeance d'Ayn al-Assad. Il s'est intéressé aux raisons qui ont poussé l'ex-président américain à ordonner l'assassinat du général Soleimani. Donald Trump pensait s'attirer le soutien d'Israël aux élections présidentielles, cause perdue puisqu'il a subi un échec cuisant face à Joe Biden. Les ennemis ne cherchaient pas seulement à éliminer un général de corps d'armée, mais à mettre un peuple entier sous la pression maximale. Pourtant, l'assassinat du général Soleimani a donné l'occasion d'affaiblir le régime américain. Toutes les bases américaines sont en état d'alerte depuis l'assassinat de Qassem Soleimani. Concernant l'ampleur des dégâts causés dans la base d'Ayn al-Assad, il a souligné. Immédiatement après l'attaque, au missile, l'ennemi a essayé de se défendre avec un avion C-130 et ses forces terrestres, mais il s'est avéré qu'environ 2000 personnes ont pris la fuite vers le désert. Il a déclaré que la menace du président américain d'attaquer 52 points sensibles en Iran était due à son extrême ego. L'Iran était préparé, mais après sa riposte, la donne a changé. Depuis l'action iranienne, le déclin de la puissance américaine a commencé. De nombreux pays se sont ouvertement opposés aux États-Unis. L'acte terroriste du régime américain et du lobby sioniste a montré au monde entier leur totale désinvolture à l'égard des lois internationales. Ils ont ignoré la portée de la mort de Soleimani, qui s'est avérée être encore plus dangereuse pour l'arrogance mondiale que de son vivant. Preuve à l'appui, le retrait humiliant des États-Unis d'Afghanistan et la victoire du front de la résistance en Irak, en Syrie et au Yémen, a conclu le général Hojizadeh. Un réseau iranien aurait infiltré le Likoud, selon une télévision israélienne. La chaîne de télévision israélienne Canal 12 a accusé un réseau iranien d'avoir réussi à établir une relation avec des personnalités du parti Likoud et les a poussés à publier des contenus sans savoir qui est exactement derrière cela, ce qui a envenimé le différend entre la droite et la gauche israélienne. Selon Channel 12, le réseau iranien a tenté de diffuser des messages contre l'ancien premier ministre israélien Benjamin Netanyahou en plus des groupes du centre et de la gauche. L'un des objectifs du réseau est d'attiser le conflit politique en Israël et d'encourager les manifestations, estime la télévision israélienne, notant que vers la fin septembre, des militants du Likoud ont organisé une manifestation contre l'actuel premier ministre Naftali Bennett. Des éléments du réseau iranien auraient également tenté de contacter des militants clés du Likoud, dont Ike Cohen, le conseiller de Netanyahou, et Lior Harari, un militant israélien bien connu, ajouté le média israélien. La chaîne israélienne a souligné que le réseau a pu atteindre une diffusion massive après que ses membres aient travaillé dans un modèle différent, expliquant que le réseau avait un certain nombre de comptes spécifiques au lieu de centaines de faux comptes de bots, et que 10 comptes dont Facebook a réussi à pénétrer des centaines de comptes israéliens. Le présentateur de la même chaîne a estimé que ce n'est pas la première fois que l'Iran s'emploie à envenimer le différend politique en Israël entre la droite et la gauche, mais ce réseau iranien à ce jour a son plus gros succès. A noter qu'il y a quelques jours, le site web Times of Israel a déclaré que le tribunal interne du parti d'opposition Likoud israélien a décidé d'expulser environ 1000 membres appartenant au groupe des nouveaux Likoudiens et d'examiner le statut de 7000 entre eux. Une mesure sur fond d'une lutte de pouvoir croissante au sein du parti. La décision de justice est intervenue alors que le chef de longue date du parti, Benjamin Netanyahu, fait face à une opposition croissante sur la façon dont il a perdu le pouvoir alors que le chef du parti rivalise pour lui succéder. On s'attend à ce que Katz défie Netanyahu pour la direction du parti lors de la tenue des primaires, bien qu'il n'ait pas encore officiellement annoncé sa candidature. Mais il a publiquement critiqué Netanyahu, l'accusant d'entraîner la direction du Likoud dans l'opposition plutôt que de permettre à quelqu'un d'autre de diriger le parti et de le maintenir au pouvoir. Dans le même contexte et sous le titre « Au Likoud, les couteaux commencent à être tirés », le journal Yediot Ahronot a publié un article dans lequel il évoquait les batailles de succession au Likoud sur fond d'accusations sévères entre les deux candidats revendiquant la succession de Benjamin Netanyahu à la présidence du Likoud. Le ministre des Finances Yisrael Katz et le député Nir Barkat. Le site d'information français OPEX 360 nous fournit ces informations, la preuve que la France a tiré ses leçons de ses mentors anglo-saxes sur la vente de sous-marins à l'Australie. Le 28 décembre, la porte-parole du service fédéral russe de coopération militaro-technique FSVTS, Valeria Rochetnikova, indiquait que Moscou avait proposé à New Delhi de développer un nouveau char à partir du T-14 Armata, dont 20 exemplaires devraient être livrés d'ici la fin de cette année aux forces russes. Cette proposition a priori été faite en réponse à une demande d'information lancée par le ministère indien de la Défense pour se procurer 1770 nouveaux chars afin de remplacer les T-72 M1 Ajaya, actuellement en service au sein de l'Indian Army, laquelle met également en œuvre 1025 T-90 S ainsi que 122 Arjun de conception locale. Et cela dans le cadre du programme FRCV pour Future Ready Combat Vehicle relancé en juin dernier. Cela étant, le concepteur du T-14 Armata, Urla Vagon Zavod, n'est évidemment pas le seul à espérer décrocher ce marché potentiel. En effet, 11 autres industriels ont été contactés par les autorités indiennes, dont le français Nexter pour le char Leclerc, qui n'est plus en production depuis les années 2000. Toujours est-il que, selon le site en langue française, le projet d'acquérir 1710 chars du futur n'est qu'au stade de la demande d'information. La Chine vient de fabriquer un drone qui peut atteindre une vitesse de 30 Mach. La Chine a commencé à devancer la Russie en termes de développement d'armes hypersoniques. Ainsi, selon les médias chinois, un véhicule aérien sans pilote unique est actuellement en préparation pour le démarrage de la production en série. Il est capable d'une vitesse de 30 Mach, ce qui est plus rapide que le bloc de manœuvre de combat hypersonique du système de missiles russe Avangard. Selon Sohu, les tests du véhicule aérien sans pilote unique ont été achevé avec succès et les préparatifs sont en cours pour le début de la production série de ces drones. La tâche principale de ce dernier sera d'effectuer des missions de reconnaissance et, selon certaines sources, de livrer des frappes avec des armes thermonucléaires. Les spécialistes russes ont réussi à accélérer le missile hypersonique Avangard à une vitesse de 27 Mach. Cependant, en Chine, ils ont largement dépassé le record russe. D'autant plus que nous ne parlons pas d'une unité de manœuvre de combat, mais d'un véhicule aérien sans pilote à part entière. Néanmoins, malgré la participation accrue de la RPC à la course aux technologies hypersoniques, il existe des informations selon lesquelles la Russie développe également un avion capable de voler à des vitesses hypersoniques. Cependant, pour le moment, il n'y a pas de détails ni de faits à ce sujet. La France à la tête des forces avancées de l'OTAN. La France dirigera désormais les forces de haute alerte de l'OTAN pour une durée d'un an dès le 1er janvier 2022. La France dirigera désormais les forces de haute alerte de l'OTAN pour une durée d'un an dès le 1er janvier 2022, rapporte ce 29 décembre 2021 le site officiel de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Observatoire continental cité par le site internet et réseau international a cherché à savoir quelle est donc la cible aujourd'hui de cette formation spéciale. La réponse réside, selon le quotidien, dans l'intervention de l'OTAN en Ukraine. La cible est la Russie tout en imposant aux États de l'UE une occupation de l'OTAN renforcée. Alors des soldats français vont être envoyés en Ukraine pour les intérêts des États-Unis. Plus que jamais, la France agit sous les ordres de Washington, entraînant la France dans un conflit qui ne la concerne pas. Du moins, Paris aurait dû agir de concert avec Moscou et jouer la diplomatie sans faire intervenir ses soldats dans ce qui ressemble à un chaudron. La France joue avec le feu en suivant l'OTAN, car Paris sait que Moscou considère l'arrivée de soldats via l'OTAN en Ukraine comme une menace. Cette formation officiellement connue sous le nom de Force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation, VJTF de l'OTAN a été créée en 2014 en réponse aux crises survenues au Moyen-Orient et à l'agression perpétrée par la Russie contre l'Ukraine, écrit l'OTAN. Cette formation militaire, la VJTF, est disponible en permanence et capable de se déployer en quelques jours afin de défendre tout pays de l'Alliance et l'élément au plus haut niveau de disponibilité opérationnelle de la force de réaction de l'OTAN qui compte 40 000 soldats, précise le communiqué de l'OTAN. Je remercie la France de diriger la force de réaction rapide de l'OTAN en 2022, a déclaré le secrétaire général de l'organisation Jens Stoltenberg, rajoutant la force opérationnelle interarmée à très haut niveau de préparation contribue de manière substantielle à notre défense collective et le leadership qu'assure la France est une démonstration forte de son engagement et de ses capacités. Dans une période où les défis de sécurité sont sans précédent, il ne saurait y avoir aucun malentendu sur la détermination de l'OTAN. Nous sommes unis pour défendre et protéger l'ensemble des alliés. En 2022, la VJTF se composera d'une force multinationale de plusieurs milliers de soldats, s'appuyant sur le 1er régiment d'infanterie et le 3e régiment de hussards. La brigade franco-allemande, forte de 3500 soldats, constituera le noyau de cette force. Dirigée par le corps de réaction rapide, basé à Lille, la brigade franco-allemande est une unité binationale qui témoigne du lien solide unissant les deux membres de l'Alliance que sont l'Allemagne et la France, indique l'OTAN, et confirme que d'autres pays de l'OTAN, dont l'Espagne, le Portugal et la Pologne, fourniront également des forces. La majorité des unités de la VJTF, Very High Readiness Joint Task Force, proviennent de la brigade principale. La direction de la VJTF, au sein de laquelle les soldats sont placés en état de haute disponibilité opérationnelle et qui sont prêts à être déployés en quelques jours, fait l'objet d'une rotation annuelle entre les alliés. Ainsi, la France succède à la Turquie qui a dirigé la force en 2021 et l'Allemagne lui emboîtera le pas en 2023. Le commandement allié de forces interarmées de Brunsum aux Pays-Bas assurera le commandement de l'ensemble de la force de réaction de l'OTAN en 2022. Sur Twitter, l'OTAN déclare en montrant une vidéo, la VJTF démontre la capacité de l'OTAN à disposer d'une unité hautement entraînée et rapidement déployable en attente pour répondre à une crise ou à un conflit si nécessaire. L'OTAN met les forces de crise en état de préparation accrue à l'action, titre Die Welt le 22 décembre 2021. Pour la première fois, l'OTAN réagit par des mesures concrètes au déploiement de troupes russes à la frontière ukrainienne. Les forces spéciales devraient être prêtes à intervenir plus rapidement. Avec cela, l'Alliance veut également assurer la protection de ses membres d'Europe de l'Est, explique le quotidien allemand en indiquant la Russie comme la cause de ce déploiement en se référant à un haut diplomate de l'OTAN. Face au déploiement de troupes russes près de la frontière avec l'Ukraine, l'OTAN a réagi par une première mesure militaire spécifique et a augmenté la disponibilité de sa force de réaction rapide NRF de 40 000 hommes en cas de crise. La force de réaction de l'OTAN NATO Response Force NRF pour les situations de crise a été augmentée et que d'autres unités de la NRF comme les forces spéciales ou les législiciens ont également été mises en alerte renforcée de sorte qu'en cas de crise elles doivent aussi être prêtes à intervenir beaucoup plus rapidement. Selon les informations de Die Welt, une décision correspondante a été prise la semaine dernière avant le 22 décembre décembre par le Conseil de l'Atlantique Nord, dans lequel tous les pays membres sont représentés. Auparavant, le commandant en chef de l'Alliance pour les opérations, le général américain 4 étoiles, Todd D. Walters, avait proposé que les gouvernements des pays de l'OTAN raccourcissent les périodes de mobilisation. Officiellement, l'OTAN, avec le VGTF, déclare protéger la Pologne, les pays baltes, la Roumanie contre une agression russe imaginée comme dans un scénario hollywoodien. La France est donc prête à attaquer la Russie en servant de proxy aux États-Unis, alors que la Russie est un grand allié de la France. Pourtant, la diplomatie russe fait encore tout pour éviter un conflit frontal. Les soldats français qui ont combattu avec l'URSS contre l'attaque du Reich nazi et qui ont donné une grandeur de la France au sein de la population russe doivent se retourner dans leur tombe. La France est donc un pays occupé. Et n'agit pas comme un pays souverain. Il faut rappeler que la diplomatie russe, dégoûtée de voir la mauvaise foi de la diplomatie française, a décidé suite à une rencontre diplomatique à Paris de publier en novembre 2021 des échanges de mails entre Paris et Berlin afin d'apporter la preuve de sa bonne foi et de sa volonté d'éviter un conflit. La Russie tend encore la main à la France, mais une élite soumise à Washington obéit aux intérêts des États-Unis et de sa propre politique armée qui est l'OTAN.